L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai, avec de vrais gens et des gens qui aiment la nature, surtout le jeudi, car le jeudi dans l'EM, souvent, c'est écologie. On reçoit donc des gens qui protègent les espèces menacées. Une fois par mois, c'est l'association Bretagne Vivante. Elle s'intéresse à de multiples animaux et végétaux, des oiseaux souvent, des amphibiens également, et parfois une faune, disons, plus éloignée de nous, mais pourtant passionnante. Transistor est peut-être la radio qui a consacré le plus de temps d'antenne à l'espèce dont il est question de nouveau aujourd'hui. Ça, on ne l'a pas mesuré objectivement, mais on en a bien l'impression. Il s'agit des mulettes perlières, donc ce sont des moules d'eau douce. Et pour nous en parler, Christine Blaise de Bretagne Vivante est avec nous. Bonjour Christine.
Bonjour Véronique.
Alors on a déjà raconté en détail la biologie des mulettes perlières et notre auditoire pourra toujours écouter les précédentes émissions, mais on peut peut-être rappeler quand même vite fait comment ça fonctionne les mulettes perlières, qu'est-ce que c'est ?
Alors la mulette perlière ou moule d'eau douce, c'est un bivalve, comme une moule quoi, mais qu'on trouve dans les rivières de Bretagne et en particulier dans les rivières qu'on appelle les rivières à salmonidés, donc plutôt les cours d'eau frais avec une eau assez vive.
Et donc, si on dit qu'elle est perlière, c'est parce qu'elle peut éventuellement générer des perles, c'est ça ?
Voilà, elle peut générer des perles. Alors, en fait, c'est s'il y a, par exemple, un grain de sable qui rentre dans la mulette et qui se bloque, en fait, dans le manteau, elle l'enroule de nacre pour s'en protéger. Et du coup, ça crée une perle. Mais c'est à peu près une mulette sur 1000 qui peut avoir une perle. Donc c'est vrai qu'elle était réputée pour ça. Elle a été malheureusement détruite pour ça, pour trouver ses perles. Mais au final, il y en a tellement peu que ce n'est pas très rentable.
On ne la mange pas non plus ? On la mangeait, si, jadis ?
Alors non, on a posé des questions justement aux gens quand on a fait des recherches historiques. Et les gens nous ont répondu qu'a priori, ce n'était pas bon à manger.
Ah ouais, ça n'a pas trop de goût. Ce n'est pas comme les moules d'eau de mer qui ont un bon goût d'eau salée.
Ouais, bah déjà c'est dans l'eau douce, donc il n'y a pas ça, mais après j'ai jamais goûté, mais voilà, on nous a dit que franchement ça se passait juste pour trouver les perles, et autrement, au pire on les donnait aux cochons.
Et elle a d'autres cousines, hein, la grande mulette par exemple, c'est ça ?
Oui, bien sûr, en fait, alors en Bretagne, des bivalves d'eau douce, il y a à peu près 12 espèces, alors on n'a pas la grande mulette nous, mais on a d'autres espèces de bivalves. Alors je ne pourrais pas vous répéter tous les noms, mais on pourra le mettre sur internet. On a fait une petite plaquette en fait avec tous les bivalves d'eau douce qu'on peut trouver en Bretagne, donc c'est assez sympa. Et effectivement, il y a d'autres espèces menacées qui sont de la même famille. Il y a la grande mulette, mais elle est plutôt dans les gros cours d'eau plus lents et pas en Bretagne.
Et donc la mulette perlière est très menacée, enfin, il en reste encore, mais pas beaucoup. Hein.
Non, en fait c'est une population qui est considérée comme en danger d'extinction. Et en fait, il y a une classification. Alors, c'est un peu
technique.
Non, c'est technique et puis c'est surtout triste. C'est-à-dire qu'on commence à vulnérable et puis on finit disparu du milieu naturel. Donc, c'est un peu triste. Et là, nous, on est au milieu sur la mulette perlière. Donc, effectivement, elle n'a pas un bon état de conservation.
En gros, elle est préservée dans quoi ? Dans les Lèzes, dans les Monts d'Arrée, c'est ça ? Ou il y a d'autres rivières éventuellement où on peut la trouver
Ah oui. Alors, en Bretagne, on a la chance, on n'en a pas beaucoup. Alors, il faut savoir qu'en France. Si on se recontextualise à l'échelle européenne, on doit être à peu près le 6e ou 7e pays français en termes d'effectifs, en termes d'effectifs, donc on n'est pas les plus gros, hein, c'est plutôt les pays nordiques, les pays scandinaves, c'est là où il y en a le plus. Et à l'intérieur de la France, la principale région, c'est l'Auvergne. Et après, nous, la Bretagne, c'est plutôt pas mal, on a quelque chose comme peut-être 4% ou 5% de la population nationale. Mais bon, c'est déjà pas mal. En fait, c'est les massifs granitiques. C'est pour ça qu'on est cousins des Auvergnats.
Tous les massifs qu'on dit herciniens, c'est ça
Les vieux massifs, quoi. Donc c'est le granit qu'elle aime. Et chez nous, en fait, en Bretagne, on a quand même maintenant 29 rivières où il y a au moins une mulette.
Ah oui.
Donc c'est pas du tout que les Lèzes.
Enfin, au moins une mulette, c'est un peu précaire quand même.
C'est ça, il y a des endroits où il en reste moins de 10, donc c'est pas grand-chose. Après, effectivement, les principales mulettes, les principales rivières en Bretagne, c'est les Lèzes. Donc c'est le Finistère, c'est vraiment la plus grosse population. Et puis il y a aussi une belle population sur le Morbihan, sur les affluents du Blavet. Donc c'est les bassins versants de l'Aulne et du Blavet qui sont les principaux.
Et quand on dit une belle population, on ne les a pas toutes comptées, j'imagine, mais c'est quoi
Non, alors c'est quand même pas mal. Hein. Sur les Lèzes, on estime la population entre 10 000 et 14 000, donc c'est énorme. Parce qu'après, sur le Blavet, on est plutôt un petit peu en dessous de 3000. Et puis après, on tombe vraiment sur quelques centaines, voire quelques dizaines.
Ah oui, en effet.
Donc vraiment, la principale population, c'est vraiment les laisses dans le Finistère, ouais.
Avoir des mulettes dans une rivière, c'est intéressant en soi parce que c'est voilà, une espèce qui a le droit d'exister. C'est aussi ce qu'on appelle des sentinelles, c'est ça, de l'environnement
Oui, c'est des sentinelles ou espèces parapluies. Effectivement, c'est des espèces qui ont beaucoup d'exigences sur leur habitat. Et donc, du coup, effectivement, alors, c'est compliqué à préserver parce qu'il faut travailler sur plein de paramètres en même temps. Et en même temps, c'est quelque chose d'intégré. Donc, quand vous préservez la mulette, vous abordez plein de sujets de conservation et qui, du coup, est favorable à toutes les autres espèces aussi qui sont peut-être, elles, moins exigeantes, mais elles en profitent. Donc, c'est bien. C'est quelque chose d'intégratif.
Dans le cas de la mulette, perlière, donc, quelle est la stratégie qui a été choisie et pourquoi ?
Alors effectivement, donc le problème de la mulette, c'est que c'est un des problèmes, on va dire.
Oui. Elle en a plein la peau.
En a plein la peau, ouais. Donc c'est vrai qu'on avait déjà parlé du cycle biologique. Elle est très longévive. Hein. Elle vit chez nous, elle vit jusqu'à 80, 100 ans et elle peut monter jusqu'à 150 ans plus au nord de l'Europe.
Ah oui, c'est gros comment une mulette de 100 ans du coup, une mulette
perlière. Et ben chez nous, ça dépasse, ça fait à peu près 12 à 15 cm de long, donc c'est pas très gros. Par contre, effectivement, celles qui vivent plus longtemps peuvent être plus grandes. Oui, c'est quand même une belle bestiole, ouais. Et donc son problème, en fait, c'est que les populations sont vieillissantes et que, en gros, la démographie n'est pas bonne, quoi.
Elle se reproduit mal si elle est vieillissante.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle continue à se reproduire, mais la survie des juvéniles est problématique. Donc en fait, pour conserver une espèce, évidemment, la priorité, c'est de préserver ses habitats pour que la reproduction se passe bien et puis qu'elle se développe. Sauf que c'est très long. Et donc, quand on est dans une situation d'une espèce en danger, on peut donner un coup de pouce. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la conservation des habitats, parce que l'objectif, c'est qu'elle soit capable de se maintenir et se développer toute seule. Mais comme c'est long de restaurer les habitats et que son cycle biologique est très long, on peut se dire que potentiellement, on va réussir à protéger les habitats, mais le temps qu'on arrive à retrouver un habitat de bonne qualité, notamment sur la survie des juvéniles, peut-être que d'ici là, en fait, tout le monde aura disparu.
Bah oui.
Voilà, ça c'est un risque. Donc du coup, une des solutions qui est une solution un peu, costaud en termes de conservation, parce qu'elle est assez intrusive et elle demande beaucoup d'intervention, c'est de prélever des larves dans le milieu naturel, de les emmener ce qu'on appelle ex situ, c'est-à-dire à l'extérieur, dans des stations d'élevage, de les faire grandir dans les stations d'élevage et de les remettre. Donc voilà. Donc c'est une des solutions qui avait été... c'est une solution qui existe dans d'autres pays d'Europe et qu'on avait mis en place maintenant, c'était en 2010, donc ça commence à dater un peu.
En 2010 ?
En 2010, ouais. On avait commencé en 2010 dans le cadre d'un projet LIFE. On avait eu des sous pour pouvoir, avec la Fédération de pêche du Finistère, monter une station d'élevage et pour pouvoir pratiquer cette technique de conservation qui est très chronophage, qui est très interventionniste. Parce qu'on ne laisse pas juste la faire toute seule. Enfin, mon micro, il est...
Oui, le micro a des hauts et des bas. On ne laisse pas faire la nature toute seule, c'est ça, ouais. Donc c'est interventionniste, ouais, pardon.
C'est interventionniste. Mais après, c'est un choix qu'on a fait, qui a été accepté et qu'on développe.
Ces larves, ce qui s'appelle les glauquidies, c'est ça.
C'est ça. Et donc, en fait, c'est la saison de la récolte des glauquidies.
C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Enfin, c'est la saison. En fait, ça commence entre fin juillet et août. Et ça peut durer dans le temps. Là, pour l'instant, en Bretagne, donc c'est les collègues de Bretagne Vivante qui sont en train de le faire en ce moment, avec le soutien de la Fédération de pêche, du Finistère toujours. On a déjà récolté deux rivières, une dans le 22, une dans le 56. Et puis là, on est en train de finir la récolte sur le 29, donc dans les laisses, puisqu'on a aujourd'hui quatre populations différentes qui sont en élevage à la station d'élevage.
Et pourquoi c'est important d'avoir des populations différentes en élevage ?
Alors, parce qu'on a pris, on s'est imposé, et puis il y a aussi des discussions avec les conseils scientifiques et puis l'État, de prendre des règles de précaution, parce qu'effectivement, toutes ces populations, ce n'est pas forcément les mêmes, notamment génétiquement. Alors, c'est une même espèce, mais il peut y avoir des spécificités génétiques qui sont en fait adaptées à leur environnement. Il y a une très faible diversité génétique chez les mulettes perlières. Mais voilà, il y a des spécificités en fait dans leur patrimoine génétique qui est en lien avec les conditions environnementales. Et donc, du coup, on ne voulait pas tout mélanger. C'est-à-dire prendre, par exemple, des mulettes du 29 et puis aller les mettre dans le 22.
Ah oui.
Donc, en fait, quand on travaille sur la... En fait, il y a plusieurs... On a choisi certaines rivières, notamment les rivières qui avaient des bonnes chances en fait, que le projet fonctionne. Et du coup, par exemple, quand on va prélever dans le 22 des glauquidies, après pour aller les remettre dans des cours d'eau du vin de soit exactement le même, soit juste un à côté. Donc du coup, en fait, quand vous avez un projet de conservation avec de l'élevage en captivité, c'est pas pour toute la France, quoi. C'est pour une population.
Ah oui, et ça perturberait de mélanger des glauquidies finistériennes et costermauricaines ?
Eh bien, en fait...
ça pourrait l'enrichir, en fait, on pourrait se dire.
Ça a été discuté aussi, mais au final, c'est un peu un principe de précaution. On ne sait pas trop, et donc du coup, on ne veut pas trop perturber non plus, quoi.
Au cas où il y aurait des maladies, c'est ça, notamment ?
Alors, entre rivières bretonnes, non, ce n'est pas un problème de maladie, c'est vraiment une adaptation au contexte local, quoi.
D'accord. Donc...
Parce que naturellement, en fait, par exemple, les populations de l'Élèze et les populations des Côtes d'Armor ne se rencontreraient pas.
Ah oui. Oui, puisqu'elles ne sont pas dans la même rivière, bien sûr.
Voilà,
oui.
Comme elles ne bougent pas, elles ne sont pas dans la même rivière. Donc, en fait, le système naturel ne les ferait pas se rencontrer. Donc, du coup, le principe de précaution, c'est aussi de ne pas non plus tout perturber. Quoi. C'est
quelque chose d'un peu naturel. On est de la nature, mais pas trop quand même.
Parce que c'est toujours un peu apprenti sorcier quelque part. Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, donc il faut rester prudent. Quoi.
C'est un reproche qui peut être fait à cette stratégie, c'est le côté manipulation du vivant.
Oui. Manipulation du vivant avec tous les paramètres qui ne sont pas contrôlables, c'est impossible. Donc voilà.
Alors la station, il n'y en a qu'une, par contre c'est le Favot, hein. C'est ça la station d'élevage des glauquidies, c'est ça ?
Ouais. Alors la station d'élevage des glauquidies, donc en fait celle qui est au Favot, donc qui est gérée par la Fédération de pêche du Finistère et qui a aussi développé le système qu'ils utilisent, ils ont été regarder un peu tout ce qui se faisait en Europe et puis ils ont développé leur propre méthode qui fonctionne bien, donc depuis 2011. Il y en a eu d'autres qui se sont développés en France, notamment en Dordogne, parce qu'ils ont fait eux aussi un live autour d'une rivière qui s'appelle la Drône, sur laquelle ils ont 25 000 mulets de perlières.
Donc un live, c'est un programme européen, ça s'appelle l'instrument financier européen. C'est pour défendre le vivant.
Exactement. Et donc, ils avaient ouvert aussi une station, parce qu'au final, ils avaient reproduit les mêmes protocoles de conservation que nous, sauf qu'elle s'est éteinte. Enfin, elle s'est éteinte, pardon. Elle a été fermée, parce que le projet s'est arrêté, puis il n'y avait plus d'objectifs. Et en fait, ce qui s'est passé... Donc après, il y a quelques années, le même type de projet s'est développé dans les Pyrénées avec la Fédération de pêche du 64, autour d'un cours d'eau. Donc voilà, ils ont voulu travailler sur un cours d'eau pour le conserver, essayer de dynamiser un peu la démographie en rajoutant un petit peu artificiellement des mulettes. Après, c'est quelque chose qui existe aussi chez les oiseaux. Par exemple, des fois, quand on a des oiseaux qui se développent pas, enfin, qui ont des dynamiques de population qui ne sont pas assez importantes, on va récupérer les œufs qui potentiellement n'auraient pu ne pas éclore. On les fait éclore et on les remet. En fait, c'est qu'on optimise le succès de reproduction. C'est une manière de faire. Donc, la station dans les Pyrénées, elle existe encore, mais elle est vraiment de petite taille. Ce qui s'est passé en Bretagne, donc dans le Finistère en plus, soyons un peu chauvins, c'est que cette méthode de conservation de la mulette perlière, il y a un groupe, une stratégie nationale qui s'est développée dans le cadre d'un plan national d'action. Et il y a d'autres régions, notamment en Auvergne, qui eux aussi auraient besoin d'un petit peu redynamiser leur population en utilisant cette méthodologie. Et du coup, au lieu de développer plein de stations dans chaque département, ce qui pourrait être une stratégie aussi, vu qu'il y avait une très forte expertise dans le Finistère, au Favot, qu'en plus ils avaient la place, qu'en plus ils ont une zone si nécessaire, ça dépend des situations, mais si nécessaire, ils ont une zone de quarantaine pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de maladies qui transfèrent avec les transferts d'eau et qui pourraient potentiellement les rivières de Bretagne. Donc ils avaient vraiment tout, donc ils sont passés à une échelle nationale. C'est-à-dire que maintenant, au Favot, ils élèvent bien sûr les Bretonnes quand même, prioritairement.
Oui, quand même.
C'est vrai que le projet LIFE, il était entre la Bretagne et la Normandie, donc il y a toujours eu des mulettes normandes qui sont aussi élevées au Favot. Bon, ça, c'est historique, c'est depuis 2011. Et puis maintenant, il y a des mulettes qui arrivent du Limousin.
Ah oui.
Et qui sont aussi élevées là-bas.
On transporte les glauquidies, les larves de mulettes.
Ça se transporte.
Alors, on a parlé donc pas mal du Favot, mais on n'a pas parlé de la façon dont c'est prélevé dans du processus de prélèvement. Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, il faut savoir que là, moi, ce que je vais décrire, c'est ce qu'on fait chez nous. Mais il y en a d'autres qui font autrement.
Il y a des méthodes différentes.
Oui, fait, maintenant, il y a des groupes de discussion entre stations d'élevage au niveau européen et on se rend compte que chacun a un petit peu sa méthode. Donc nous, notre méthode, comme on a encore des individus sauvages qui se reproduisent naturellement dans les cours d'eau, on va les embêter dans les cours d'eau au moment où on suit qu'on appelle la maturation des glochidies. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que la larve, elle se développe sur les branchies de la femelle. Elle a cinq phases de développement. Et quand elle arrive à la cinquième étape, à ce moment-là, elle va être expulsée de l'adulte et partir dans le cours d'eau. Et nous, en fait, on suit cette phase de maturation donc des glochidies. Et quand elle est juste au moment où elle va relarguer normalement dans le milieu naturel, et ben on lui vole ses larves.
Ah, voilà. Eh oui.
Bon, après, ça fait plusieurs millions de larves. On n'en prend que sur quelques-unes, donc on n'impacte pas la reproduction globale. Mais effectivement, donc on intervient là, on prend ces larves-là.
Donc il faut repérer déjà les ouais. mulettes adultes, femelles.
C'est ça, c'est voilà. tout un boulot, ouais.
Ok, donc on lui attrape quoi, avec un filet? Comment ça se...
Non, pas du tout. En fait, on les met dans des petites boîtes dans plastique avec de l'eau dedans. Et en fait, le truc, c'est que comme elles sont un peu stressées, parce que bah forcément l'eau c'est pas l'eau de la rivière quoi, ça arrête de couler, ça
elles comprennent très vite que elles sont plus dans la rivière.
Ouais, et du coup le stress les aide à relarguer les glochidies. Donc généralement c'est des manips qui font maximum une heure sur l'individu.
Ouais.
Voilà.
Ouais, et quand même.
Ouais,
il faut y passer une heure à chaque mulette en fait.
Alors c'est pas à chaque mulette parce qu'on peut avoir plusieurs boîtes et les faire en même temps, mais par contre effectivement, il faut quand on fait la surveillance, ça peut être 5, 6, 7 passages jusqu'à réussir à récupérer des glochidies. Donc c'est quand même un travail assez long, assez délicat parce que toujours il faut faire attention, faut pas impacter l'adulte quoi. Donc ces glochidies, elles sont crachées quelque part dans la petite bassine avec de l'eau, on enlève la mulette, on la remet dans la rivière là où elle était. Et on récupère, en fait, c'est comme une soupe. C'est une soupe de larves.
Pleine de glochidies. Ouais.
C'est ça. Et cette soupe de larves, on l'amène à la station du Favot. Donc, eux, ils vérifient qu'elles sont bien vivantes, qu'elles vont bien. Donc, il y a des petits systèmes de tests. Ils regardent à peu près aussi la quantité qu'on a dans cette soupe. Donc, en fait, c'est un échantillon. Et puis, on compte à la loupe binoculaire, quoi. Enfin, c'est eux qui font ça.
Ouais, non, mais il peut y en avoir combien
En fait, voilà,
dans une bonne soupe, dans une boîte.
Dans une bonne soupe, c'est 1,5 million de millions, quoi.
On peut pas les compter, alors. Enfin, on évalue vite fait, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, vous prenez une goutte, vous savez le volume que vous avez sur la goutte, et donc, du coup, après, vous faites une extrapolation.
Ok. Voilà.
Évidemment, c'est pas. Et en fait, ils ont besoin de savoir ça parce qu'après, ils font la mise en contact avec les truites de manière artificielle.
Alors, c'est là qu'il faut rappeler comment le système de reproduction de la mulette perlière, qui est quand même complexe et qui nécessite une symbiose avec la truite. Voilà.
C'est ça, exactement. En fait, dans le milieu naturel, donc quand les glochidies sont matures, elles sont crachées dans la rivière. Elles n'ont aucune capacité de mobilité, donc en fait, elles sont emmenées par le courant. Et elles ont à peu près 48 heures pour être respirées, en fait, par la truite.
Du coup, passer par les branchies.
Voilà, en fait, c'est la truite en respirant dans l'eau. Les glochidies passent dans son système branchial et paf, s'accrochent sur les branchies. Donc, effectivement, ça nécessite quand même d'avoir pas mal de synchronisation. Donc, nous, quand on récupère les larves, on les amène au Favot. Le Favot, comme c'est une pisciculture, ils élèvent des jeunes truites. Donc, ils ont des truitelles d'un an qu'ils ont élevées exprès pour l'élevage de la mulette perlière. Et quand on les rapporte, en fait, ils calculent, parce qu'ils font un calcul sur le nombre de truites nécessaires par rapport à la soupe de larves qu'on a apportée. Voilà. Donc, en fonction, ils calculent, ils disent, bon, il y en a tant, donc on va mettre tant de truites en contact. On les met dans une bassine qui n'est pas trop, trop grande, où ils mettent les truites. Ils versent la soupe, ils mettent un bulleur pour que tout ça soit un peu en suspension, comme si on était dans une rivière, parce qu'autrement, toutes les larves vont tomber au fond.
Bien sûr.
Faut bien comprendre.
Oui,
voilà. Avec de l'oxygène pour que tout ça se passe bien. Alors, le temps exactement, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Et puis, après, ils mettent les truites en élevage, comme ils savent le faire dans une pisciculture. Donc, souvent, ils vérifient que ce qu'on appelle l'enquistement, donc ce phénomène que la truite, la glochidie s'accroche sur les branchies de la truite, ça s'appelle l'enquistement.
Okay.
Donc, ils vérifient que l'enquistement s'est bien fait, c'est-à-dire qu'ils regardent sur les branchies des truites, est-ce qu'il y a beaucoup de petits points blancs ou pas. Alors, c'est microscopique. Hein, donc, voilà. Et puis, ils élèvent ces truitelles pendant à peu près d'octobre jusque mars, avril, mai, ça va dépendre.
Ok. Donc,
ils les élèvent en captivité, comme ils feraient de l'élevage de truites, sauf que celles-là, elles sont un peu spéciales parce qu'elles ont des glochidies qui sont accrochées sur leur branchie.
Parce que dans le milieu naturel, la glochidie, elle resterait comme ça quelques mois dans le système de la truite pour grandir, c'est ça ?
Pour grandir, exactement.
Et elle ne nuit pas à la truite.
Alors, bah, forcément, il faut comprendre que c'est comme si sur vos poumons, vous aviez plein de petits trucs qui étaient accrochés.
Ah oui, c'est une sorte de parasitisme quand même.
Alors, ce n'est pas un parasitisme dans le sens où elle ne prélève rien sur la truite. Elle ne prélève rien. Par contre, elle va, s'il y a beaucoup, beaucoup de mulettes qui se sont enkystées sur les branchies des truites, ça peut éventuellement avoir un impact sur les capacités respiratoires et donc de déplacement. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle va s'essouffler, quoi.
Ah oui, oui, voilà, oui. Elle aura plus de mal à respirer, quoi.
Voilà, donc du coup, elle peut éventuellement... Mais il faut vraiment que ce soit un enkystement énorme, quoi. Autrement, en règle générale, parce qu'on fait aussi des contrôles dans les rivières en naturel pour voir si ça se passe bien. Et on n'en trouve pas des millions non plus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, il n'y a aucun prélèvement. C'est-à-dire qu'elles ne ponctionnent rien. Elles sont juste accrochées dessus. Donc voilà, elles sont accrochées sur les branchies, quoi.
Et donc au bout de quelques mois, comment la glochidie sort de la truite?
Eh bien, elle se laisse tomber.
Ah ouais, tout simplement. Ah ouais. Ouais, des petits crochets qui se détachent,
Non, c'est pas exactement ça. En fait, alors c'est rigolo parce que on est à la radio, donc je peux pas montrer d'image, mais effectivement, si on regarde une glochidie en stade 5, juste avant qu'elle soit relarguée dans le milieu naturel, ça fait en fait comme un petit Pac-Man. Ça fait une petite boule avec un petit crochet. Ah oui. Et effectivement, c'est ce petit crochet. Enfin voilà, ça va se refermer sur la branchie. Et en fait, il faut comprendre que quand elle est pendant tous ces mois où elle est accrochée sur la branchie, il y a aussi un phénomène de transformation. C'est-à-dire que en fait, en gros, quand elle arrive sur la truite, c'est un petit Pac-Man, et quand ça ressort, c'est une mini mulette. Donc ça n'a pas vraiment la même tête. Donc il y a eu aussi un phénomène de transformation. Mm-hmm. Et en fait, donc la glochidie se transforme en petite mulette. Cette petite mulette grossit. Et puis migre généralement vers les extrémités des branchies et puis après se laisse tomber au fond du cours d'eau quand elle est à maturité. Mais bon, elle fait 400 microns, hein, donc ça reste des trucs microscopiques, quoi.
Et donc, quelle est l'opération au Favot pour récupérer la mini-mulette prête?
Ouais. Alors ça, c'est la phase, du coup, tout à l'heure, c'était l'enkystement. Cette fois-là, c'est l'exkystement. On sort. Et en fait, tout simplement, eux, ils surveillent leur truite. Et puis, dans leur bassin, ils ont des systèmes avec des filtres. Et quand ils changent l'eau, ils font passer l'eau dans le filtre. Et puis là, ils récupèrent manuellement, en fait.
Ah oui.
Ouais, c'est de la récolte manuelle.
Ouais. Ah oui. Mais à la loupe, quoi. Enfin, loupe binoculaire. Enfin,
non, ça se voit, en fait.
Quand il y en a suffisamment, en fait. On a une sorte de sable de glochidie. Enfin,
on voit plein de... en fait, comme elles sont élevées dans les bassins où il y a les truites, y a pas de sédiments, au fond.
Ah oui, c'est ça.
Il y a éventuellement les crottes de truites.
Il y a quand même des...
Alors, pendant la phase d'exkystement, justement, ça, c'est une chose qu'a amélioré comme système la Fédération de pêche, c'est qu'ils font jeûner les truites pour avoir moins
d'excréments.
Ouais, c'est ça. Et pour pouvoir mieux récupérer les mulettes. Donc, ça, des fois, ça peut durer plusieurs semaines, donc c'est pas très... Voilà. Et après, ils les remettent en forme, quoi. Mais effectivement, du coup, il y a une manip technique mulette et pisciculture qui est assez poussée.
Il y a combien de personnes qui travaillent au Favot sur la mulette, en tout cas?
Alors, sur la mulette, ils ont un temps plein. Alors après, il faudrait bien leur demander. Après, maintenant, ils sont 3,5 à l'échelle de la station, mais en fait, il y a une partie pour la mulette, puis ils ont toute leur activité piscicole qui est bien en lien avec l'activité de pêche qui est pas... Mais au final, par exemple, moi, j'avais été visiter une autre station d'élevage, celle qui était dans le Périgord, où justement, comme ils n'avaient pas la compétence piscicole, enfin, ou pisciculteur, en fait, ils achetaient la truite. Ils faisaient que la partie mulette. Là, c'est vrai qu'au Favot, ils ont le cycle complet, donc... finalement, tout le travail de préparation des truitelles, qui n'est pas directement lié, c'est pas l'élevage de la mulette, mais au final, c'est un travail de pisciculteur, mais qui sert à la mulette, quoi.
Oui, c'est donc, bien que ça leur... soit fait in situ, quoi.
Oui, c'est intéressant. En plus, ils ont pris une souche élaise, donc c'est une souche locale. C'est pas...
De truite.
Ouais, de truite. Donc il y a quand même toute une démarche aussi là-dessus. Et pour avoir exactement le temps de travail, il faudrait leur demander.
Non, mais bon, c'était juste pour savoir. Donc, une personne qui s'occupe de ça et... Quand on a fait l'exquistement, donc là il nous reste une minute pour raconter comment on remet les mini-mulettes dans la rivière.
Alors aujourd'hui on ne remet pas les mini-mulettes dans la rivière tout de suite, parce qu'elles sont assez fragiles et l'habitat il n'est pas encore optimum. Donc en fait elles restent plusieurs années dans la station en croissance. La station, en fait, ils les mettent dans des sortes de bancs de sable, ça fait comme une reconstitution d'une rivière, ils les nourrissent. Mmh. Et puis, quand elles sont à une taille alors suffisante, donc on a fait plusieurs tests. Aujourd'hui, on essaye de remettre dans les rivières que des mulettes qui font 1,5 cm à 2 cm. Donc, ça prend déjà quelques années pour que ça atteigne cette taille-là.
Ouais. Ça grandit lentement, en effet.
Mais c'est à peu près 0,3 à 0,5 cm par an.
En effet.
Il ne faut pas être pressé. Mm-hmm. Et du coup, après, on a des systèmes. Alors, il y a eu des relâchis directs, c'est-à-dire qu'on les amène et puis on les met dans un endroit qu'on considère qui est bien. Ou maintenant, on a tendance à passer par une phase qu'on appelle d'élevage in situ. C'est-à-dire qu'en fait, on met des systèmes de boîtes dans la rivière à des endroits qu'on considère comme étant plutôt bons. On regarde un peu comment ça se passe et si ça se passe bien, après, on les relâche. Donc là, aujourd'hui, comme tout ça, ça a commencé depuis 2011, donc c'est un peu vieux, on est à plein d'étapes. Mm-hmm. On a des récoltes de glochidis cette année. Cette année, on a aussi fait du relâcher direct dans le cours d'eau, des mulettes qui faisaient 3, 4 cm. Donc, on était super contents. On les a remis dans la mulette une par une. Il y en a d'autres qu'on sort de la station, qu'on va mettre dans les boîtes et qui, elles, sont encore toutes petites. Donc, on a un peu toutes les phases du projet aujourd'hui. Quoi.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Christine Blaise. On retrouvera Bretagne Vivante en novembre. Luc Guillard viendra cette fois nous parler de la biodiversité des anciennes carrières. Merci. Au revoir.
Au revoir.